Ben-Hur, chapitre 30. Trahison d'Iras, l'Égyptienne. Le lendemain, pour se rendre à son rendez-vous avec Iras, Ben-Hur gagna le cœur de la ville, enfila la colonnade d'Hérode et arriva bientôt aux portes du palais d'Hydernie. Il entra d'abord dans un vestibule, aux deux extrémités duquel se trouvaient des rampes d'escalier, conduisant à un portique monumental en marbre blanc du style grec le plus pur. Deux lions ailés semblaient monter la garde au pied des escaliers. Au milieu du vestibule se dressait un ibis gigantesque qui formait un jet d'eau. Tout cela était en pierre grise et rappelait l'Égypte par la forme. Ben-Hur s'arrêta un moment sous le portique pour en admirer l'élégante structure. De grandes portes ouvertes l'invitaient à pénétrer dans un passage quelque peu étroit, mais très élevé. Il s'y engagea et le suivit, heureux à la pensée qu'il trouverait au bout Iras, prête à l'accueillir avec son radieux sourire. Il arriva enfin devant une porte fermée, qui s'ouvrit toute seule à son approche, sans un grincement, sans le moindre bruit qui pût faire penser qu'une main l'eût touché. La singularité de ce fait ne frappa point Ben-Hur, trop absorbé par la magnificence de la pièce, semblable à l'atrium d'une maison romaine dans laquelle il venait de s'introduire. C'était une salle immense, meublée avec une magnificence inouïe. Une rangée de colonnes dorées soutenait la voûte ouverte au milieu pour laisser pénétrer l'air et la lumière. Le coin du ciel bleu que l'on apercevait à travers cette ouverture, les colonnes, les meubles et jusqu'aux bas-reliefs et aux fresques dont les murailles étaient ornées, se réfléchissaient dans le pavé de la mosaïque unie comme un miroir qui représentait des scènes empruntées à la mythologie. Ben-Hur regardait, tout rêveur, les splendeurs étalées autour de lui. Que lui importait d'attendre un peu? Iras sans doute allait venir, peut-être s'attardait-elle à sa toilette. Elle n'en sera que plus belle, se disait-il, et quand il eut fait le tour de la salle, afin d'en admirer tous les détails, il s'assit sur un divan et se mit à prêter l'oreille afin de ne pas perdre le moment où l'Égyptienne approcherait de la porte. Mais il écoutait en vain, rien ne venait rompre le silence, dans lequel le palais tout entier semblait être plongé. Il s'était trompé, peut-être, mais non, le messager de la veille, envoyé par Iras, avait bien parlé du palais d'Hydernie. D'ailleurs, la manière mystérieuse dont la porte s'était ouverte devant lui prouvait bien qu'on l'attendait. Il alla vers cette porte. Ses pas, si légèrement qu'il marcha, résonnaient d'une manière qui le fit tressaillir. Il essaya d'ouvrir la serrure. Elle résista à son effort. Il la secoua sans plus de succès. Il s'énervait. Un sentiment de crainte s'emparait de lui et il restait immobile, se demandant qui donc à Antioche pouvait désirer lui nuire. Mais cela, évidemment. Cette idée l'exaspéra et il se précipita vers les portes des deux côtés de l'atrium pour les ouvrir. Elles étaient toutes hermétiquement fermées. Il ne pouvait plus se dissimuler qu'il était réellement prisonnier. Il s'assit pour réfléchir à sa situation et regarda autour de lui avec un sourire de défi. Il lui serait aisé de se servir des meubles pour se défendre. Des oiseaux pouvaient mourir de faim dans des cages d'or, mais lui, il ne se laisserait pas réduire à cette extrémité. Il était fort et la colère décuplerait ses forces. Mais Messala lui-même ne viendrait pas l'assaillir. N'était-il pas pour la vie impotent comme Simonide? Mais rien ne l'empêchait de faire marcher les autres pour lui. Ben-Hur se leva et fit encore un effort pour ouvrir les portes. Puis il appela. L'écho seul lui répondit. Il résolut d'attendre encore un moment avant d'essayer de se frayer un passage de vive force. Il se mit à réfléchir avec plus de calme à tout ce que sa situation avait d'étrange, et peu à peu il en arriva à se persuader qu'il était simplement victime d'une erreur accidentelle. Le palais ne pouvait être absolument inhabité. Il devait s'y trouver un gardien qui certainement ferait sa ronde vers le soir. Jusque-là, il ne lui restait qu'à prendre patience. Une demi-heure que Ben-Hur avait trouvée longue comme une éternité s'écoula ainsi, puis la porte par laquelle il était entré s'ouvrit et se referma si doucement qu'il ne s'en aperçut même pas, assis qu'il était à l'autre bout de la pièce. Bientôt, cependant, il sursauta en entendant le bruit d'un pas qui se rapprochait. « Enfin, la voilà !» se dit-il joyeusement. Mais les pas étaient lourds et semblaient ceux d'une personne chaussée de grossières sandales. Les colonnes dorées empêchaient Ben-Hur de rien voir. Il s'avança tranquillement et s'appuya contre l'une d'elles. Alors des voix s'élevèrent, des voix d'hommes, rudes et gutturales. Il ne les comprenait pas, car ces hommes s'exprimaient en un langage inconnu en Orient et au Midi de l'Europe. Ils s'avançaient lentement, examinant curieusement tous les objets qui se trouvaient sur leur passage. Enfin, ils s'arrêtèrent devant une statue sur laquelle la lumière du jour tombait en plein. Les craintes de Ben-Hur, déjà éveillées par le mystère qui entourait sa présence dans ce palais, prirent une forme déterminée quand il reconnut dans l'un de ces hommes le Saxon qui figurait la veille au nombre des vainqueurs du cirque. Il jeta un coup d'œil sur l'individu qui accompagnait le gladiateur. Il était jeune, ses yeux et ses cheveux noirs, aussi bien que toute sa physionomie, auraient pu le faire passer pour un juif. Il portait, comme son camarade, le costume que les gens de sa profession mettaient pour combattre dans les arènes. Un surinstinct avertissait Ben-Hur qu'un meurtre à commettre pouvait seul avoir amené les deux acolytes dans ce palais et que lui-même avait été attiré dans un odieux guet-apens afin de périr loin de tout secours dans cette demeure privée où personne ne songerait à venir le chercher. Mais il n'allait pas se laisser égorger sans se défendre. Il vendrait en tout cas chèrement sa vie. Jusqu'alors, il avait souffert de la part des autres. Depuis la veille, il semblait qu'un changement se fût produit dans sa vie et que ce fût à son tour de devenir l'agresseur. Messala avait été sa première victime, et il songeait à lui sans remords, certain d'avoir agi selon les instructions de la loi. Il avait puni son ennemi, il en avait triomphé avec la permission de l'Éternel, et il puisait du courage dans cette certitude. Il se disait que sa protection ne lui ferait pas défaut dans le danger de l'heure présente. D'ailleurs, n'était-il pas appelé à se dévouer au service du roi qui allait paraître et pouvait-il avoir peur au moment d'entrer dans la voie que Dieu lui-même ouvrait devant lui? Fort de cette pensée, il détacha sa ceinture, jeta au loin de lui sa longue robe de juif et, vêtu seulement d'une tunique de dessous, assez semblable à celle que portaient ses antagonistes présumés, il croisa les bras et attendit. Les deux hommes venaient de terminer l'inspection de la statue. Le Saxon se retourna, dit quelques mots à son compagnon dans son langage incompréhensible, puis tous deux s'avancèrent vers Ben-Hur. « Qui êtes-vous ? » leur demanda-t-il en latin. Le Saxon ébaucha un sourire qui ne réussit pas à rendre l'aspect de son visage moins brutal et répondit « Des barbares !»« C'est ici le palais d'Hiderni. Qui cherchez-vous ? Répondez-moi. » Il parlait d'un ton d'autorité. Les deux étrangers s'arrêtèrent et à son tour le Saxon demanda « Et toi, qui es-tu ? Un Romain ?» Le géant rejeta sa tête en arrière et se mit à rire en s'écriant « Ha ! J'ai entendu raconter qu'une vache qui léchait du sel a été tout à coup changée en dieu, mais un dieu lui-même ne saurait faire d'un juif un Romain !» Quand il eut assez ri, il dit encore quelques mots à son compagnon et se rapprocha de Ben-Hur. « Arrête !» commanda celui-ci en quittant la colonne à laquelle il s'appuyait. Ils lui obéirent, et le Saxon, croisant ses énormes bras, lui dit d'un ton de menace « Que me veux-tu ? Tu es tort, le Saxon !» Le géant ouvrit tout grand ses yeux bleus. « Tu as été laniste à Rome !» Thor fit un signe affirmatif. « J'ai été ton élève !»« Non !» dit Thor en secouant la tête. « Par la barbe d'Irmine, je n'ai jamais connu de juif dont j'ai dû faire un gladiateur !» « Je te le prouverai. Vous êtes venu ici pour me tuer ?»«
Cela est vrai. » »«
Alors laisse cet homme se mesurer seul avec moi, et tu verras sur mon corps la preuve de ce que j'avance. » Cette perspective parut divertir le Saxon. Il échangea quelques paroles avec son compagnon, après quoi il s'écria « Attends que je donne le signal de commencer le combat !» Il poussa du bout de son pied un divan vers le milieu de la salle et s'y étendit confortablement. Puis il leur dit « Commencez maintenant !» Ben-Hur s'avança sans hésiter vers son antagoniste en lui disant « Défends-toi !» Sans répondre, l'homme leva ses deux mains. Il n'y avait pas entre eux à les voir d'inégalité appréciable. Au contraire, on aurait pu les prendre pour deux frères. Ben-Hur posait au sourire effronté de l'étranger un sérieux qui aurait donné à réfléchir à ce dernier s'il avait pu se rendre compte de l'habileté de son adversaire. Tous deux sentaient qu'il s'agissait d'un combat à mort. Ben-Hur feignit d'attaquer avec sa main droite. L'étranger para le coup en avança son bras gauche, mais avant qu'il pût se remettre en garde, Ben-Hur lui saisissait le poignet et le serrait comme dans un étau, avec la force terrible que lui avaient donné les années passées à ramer. Se pencher en avant, passer son bras autour de l'épaule de l'inconnu,
le retourner et lui appliquer de sa main gauche un coup sur la nuque, ce fut l'affaire d'un instant. Point n'était besoin d'y revenir à deux fois. Le barbare s'affaissa, sans pousser un cri, et demeura sans mouvement, étendu sur le pavé de la mosaïque. Ben-Hur se tourna vers Thor. « Ah 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 !» s'exclamait celui-ci. « Par la barbe d'Irmin, je ne m'y serais pas mieux pris moi-même. » Il toisa Ben-Hur des pieds à la tête, se leva et ajouta avec un regard d'admiration non déguisé, « C'est mon coup. Je l'ai pratiqué pendant 12 ans dans les écoles de Rome. Tu n'es pas un juif. Qui es-tu ? Tu as connu Arius, le Doumvir ? Quintus Arius ? Oui, il me protégeait. Il avait un fils. « Je me souviens de lui, » dit Thor. « Il aurait fait un gladiateur sans pareil, et César lui avait offert son patronage. Je lui avais appris le coup que tu viens de pratiquer en s'attestant. Je suis ce fils d'Arius. » Thor approcha et le regarda attentivement, puis sa figure s'éclaira. Il se mit à rire et lui tendit la main. « Ah 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 ! Il me disait que je trouverais ici un juif, un chien de juif, et qu'en le tuant, je rendrais service aux dieux. Qui te disait cela ?» demanda Ben-Hur en lui prenant la main. « Lui, mais ça là !»« Quand te l'a-t-il dit, Thor ?»« La nuit dernière. Je le croyais blessé. Il ne marchera plus. C'est de son lit qu'il m'a parlé, entre ses gémissements. » Ben-Hur comprenait maintenant que tant qu'il vivrait, le Romain ne cesserait d'être pour lui un danger perpétuel. Pourquoi ne pas lui emprunter sa méthode ? Pourquoi n'achèterait-il pas, à son tour, les services de l'homme que son ennemi avait payé pour le tuer ? La tentation était forte, et il allait peut-être y céder, quand ses yeux tombèrent sur le visage du mort, si étrangement semblable au sien. Une idée nouvelle s'empara de lui, et il demanda à Thor combien Messala lui avait promis pour se débarrasser de lui. « 1000 sesterces. Tu les auras, et je t'en donnerai 1000 autres si tu veux faire ce que je te dirai. » Le géant réfléchit un moment. « J'en ai gagné 5 000 hier au cirque. » Le Romain m'en donnera 1000, cela fait 6. Donne-moi 4 000, bon Arius, et je ferai tout ce que tu voudras. Quand même le vieux Thor, dont je porte le nom, me frapperait de son marteau. Donne-moi 4, et je tuerai le patricien dans son lit. Je n'aurai pour cela qu'à lui poser la main sur la bouche. Ainsi, il illustrait son discours en appliquant sa large main sur son propre visage. Je te donnerai les 4 000 sesterces sans que tu sois obligé pour ce prix de tacher tes mains de sang, répondit Ben-Hur. « Écoute-moi, ton ami, que voilà, ne me ressemble-t-il pas ?»« Oui, on dirait 2 pommes du même arbre. Si je mets sa tunique, que je l'habille avec mes vêtements et que nous sortions ensemble, en le laissant ici, mes salades ne te payerait-il pas ? Tu n'aurais qu'à lui faire croire que ce cadavre est le mien. » Thor se mit à rire de si grand cœur que les larmes coulaient de ses joues. « Ha, ha, ha ! Mes 10 000 sesterces auront été facilement gagnés !» Je pourrais ouvrir une échoppe et vendre du vin près du grand cirque de Rome, tout cela pour un mensonge, sans avoir répandu une goutte de sang. Donne-moi ta main, fils d'Arius, et si jamais tu viens à Rome, ne manque pas de t'informer de l'échoppe de Thor le Saxon, et par la barbe d'Irmine, je te donnerai à boire de mon meilleur vin. » Ils se serrèrent la main, puis ils firent l'échange des vêtements, après quoi ils se dirigèrent vers la grande porte qui s'ouvrit après que le géant y eut frappé quelques coups. Dans la soirée de ce jour mémorable, Ben-Hur fit à Simonide le récit de ce qui s'était passé au palais d'Hydernie, et ils décidèrent qu'au bout de quelques jours, une enquête publique serait faite au sujet de la disparition du fils d'Arius. Éventuellement, le cas serait porté à la connaissance de Maxence. Après quoi, si rien ne venait éclaircir cette mystérieuse affaire, on pourrait être certain que Gratien et Messala se tiendraient en repos et que Ben-Hur serait libre d'aller à Jérusalem pour y chercher sa famille. Au moment des adieux, Simonide se trouvait sur la terrasse qui dominait la rivière. Il prit congé du jeune homme en lui donnant une bénédiction paternelle. Esther l'accompagna jusqu'à l'escalier. « Si je retrouve ma mère, Esther, tu iras auprès d'elle à Jérusalem et tu seras une sœur pour Tirza, » dit-il en l'embrassant. Était-ce seulement un baiser de paix qu'il déposait ainsi sur son front ? Il traversa encore une fois la rivière pour regagner son hôtellerie. Il y trouva l'arabe qui devait lui servir de guide et commanda les chevaux. « Celui-ci est à toi, » lui dit l'arabe en lui en désignant un. Ben-Hur reconnut Aldébaran, le plus rapide, le meilleur des fils de Mira, le préféré du cheikh après Sirius. et il comprit que le vieillard avait mis tout son cœur dans ce présent. Le cadavre trouvé dans l'atrium du palais d'Hyderni fut enseveli pendant la nuit et sans attendre le jour, mais Sala dépêcha un courrier à Gratien afin de lui annoncer que la mort de Ben-Hur était cette fois absolument certaine.